than David was.
Saul.
Yeah, Solomon.
Solomon.
His son.
I'll ask you, but say that in French first.
Okay. La question que je pose, c'est que, en fait, David, ayant du sang sur ses mains, est-ce que, vu que son fils Salomon n'avait pas ce sang-là, vu que ce n'était pas un homme de guerre, est-ce qu'il était mieux aux yeux de Dieu pour construire le temple, la maison de Dieu, tout ça?
Je pense pas vraiment que la question c'était d'être mieux.
For the blood on David's hands was not sin.
Parce que le sang sur les mains de David n'était pas péché.
It was killing the enemies of God, which God commanded him to do.
C'était tuer les ennemis de Dieu, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire, lui a commandé de faire.
And so there's more to the expression being a bloody man.
Et alors l'expression être un homme de sang est plus profonde que cela.
Because later in 1 Kings 4,
parce que plus tard dans 1 Roi au chapitre 4,
God would accuse Solomon.
Dieu accuserait Salomon de ne pas avoir un cœur comme celui de David. Alors celui de David, le cœur de David était mieux. Alors je vais consulter mes frères. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire ça, être un homme de sang, pour pas être en position pour construire le temple?
Je ne prétends pas pouvoir répondre à la question, mais c'est parce que je m'en venais poser une question similaire dans un commentaire qui m'a frappé. Peut-être que, humainement parlant, on serait porté à dire, ben c'est David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, c'est lui qui devrait bâtir le temple. Mais encore là, Dieu est souverain et c'est pas David qui va bâtir le temple. Et c'est effectivement pas un homme qui est selon le cœur de Dieu, quand on connaît l'histoire de Salomon. Salomon, c'est pas un homme selon le cœur de Dieu, définitivement pas. Surtout par sa fin. Alors, moi, je peux juste voir là-dedans la grâce de Dieu, de montrer que David avait une tâche à remplir qui était d'un ordre. Et Salomon, ce qu'il avait à faire, c'était d'un autre ordre. Il ne faut pas oublier que Salomon s'est bâti une maison aussi. Une maison qui est restée dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'était normal que le plus grand homme de l'histoire de l'humanité, qui se bâtit une maison superbe, un trône superbe, ait à bâtir une maison terrestre à Dieu. I'm not going to repeat all this, but... if we think humanly, we say, well, David is a man according to the art of God, so he should build a temple, because Solomon was not a man according to the art of God. And God even knew how would be the end of Solomon. But Solomon was to be a man of peace and a man of prestige. He was to build himself a superb home. And he was to be... renowned in the history of man as a man who built something great. And I think, personally, God used him only in his grace, because there were no godly reason for this. Only his grace.
You just reminded me of something.
Vous me rappelez quelque chose? Dans 2 Chroniques 7, le temple de Dieu devait être une maison de prière pour toutes les nations. David était appelé par Dieu à détruire quelques-unes de ces nations. Ce serait une contradiction dans les termes. Comme Yves l'a souligné, Salomon a apporté la paix à toutes les nations, ce qui irait avec l'idée que la maison de... Could you just repeat the last part?
Eventually.
Okay, elle serait une maison de prière pour toutes les nations, éventuellement.
So I think you hit upon a
point. C'est que je pense qu'on a touché un point intéressant ici.
Merci.
J'aimerais ajouter à ça que le temple de paix ne pouvait pas être construit par un homme de guerre. Ça prenait un homme de paix pour construire le temple de paix. De là, Salomon, qui veut dire Shalomon, ça veut dire paix, et qui est un titre de celui qui devait bâtir le vrai temple de paix de Dieu. The temple, the house of peace, could not be built by the men of war. Needed a man of peace to build a temple of peace. So, Shalomon. Shalomon means peace. Shalomon. Shalom. So, that's point to Christ again. The Bible, the scriptures are Christ-centered. Am I right?
Thank you. If we now go to 2 Samuel chapter 21.
Maintenant, 2 Samuel, chapitre 21, s'il vous plaît.
Among other things, we might learn.
Entre autres choses, nous pourrons apprendre.
There is a lesson to learn here.
Il y a une leçon à apprendre ici.
That is understanding godly authority.
C'est-à-dire comprendre l'autorité de Dieu.
As they use their power.
Quand ces autorités utilisent leur pouvoir.
Sometimes authority.
Des fois, l'autorité fera des choses qu'on ne comprend pas et on sautera tout de suite à la conclusion qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont des gens ignorants et qu'ils ne s'inquiètent pas pour nous. Et dans quelques cas, ça peut être vrai, mais dans plusieurs, c'est pas vrai. Je parle de l'autorité de Dieu maintenant. Souvent, l'autorité de Dieu, les autorités de Dieu utilisent leur pouvoir d'une manière qu'on ne comprend pas. Et la raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce qu'ils sont plus profonds dans la parole de Dieu que nous ne le sommes. Ils voient le portrait entier, tout le contexte du conseil de Dieu. Nous ne le voyons pas parce qu'on n'est pas arrivé là dans notre cheminement encore. Alors, ça paraît comme étant incorrect, mais ils font le bien. Et ils connaissent des passages qui supportent ce qu'ils avancent. Et peut-être qu'on ne connaît pas la parole de Dieu aussi bien encore. Ça prend du temps pour faire ça. Alors, comment comprend-on les actions de Dieu avec ces leaders-là? Dans l'exercement de leur fonction. L'exercice de leur fonction. Alors, on va à 2 Samuel au chapitre 21, les versets 1 à 3.
Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?»
Alors Dieu avait envoyé une famine sur Israël pour 3 ans. Et comme il faisait souvent, David a consulté le Seigneur. Parce que c'était lui son roi. Et le Seigneur a répondu, c'est pas à cause de Saül et sa maison sanguinaire. Parce que Saül a tué les Gabaonites. Le verset 2 dit à la fin que Saül les a tués dans son zèle. Ça arrive souvent qu'on a du zèle pour Dieu, les jeunes hommes surtout. Mais ce zèle ne se compare pas à la connaissance et à la sagesse. Et je peux me rappeler de moi-même quand j'étais jeune. Que j'avais toujours du zèle pour prendre l'action et rapidement. Ça semblait correct d'essayer de résoudre un problème rapidement et durement. Je voyais ça comme prendre position pour la vérité. Il y a des temps, en effet, où on devrait faire ça. Mais le zèle de Saül n'était pas bien, il était mal. Mais si on aurait questionné Saül, pourquoi est-ce que tu as tué les Gabaonites? Il aurait pu même vous donner un passage. Vous voyez, les Gabaonites n'étaient point des habitants, ou étaient des habitants. N'étaient pas, ah, ok, ça marche, c'est logique. N'étaient pas des habitants de la terre d'Israël. Ils étaient les ennemis païens de Dieu, mais ils vivaient dans la terre promise. La parole de Dieu nous donnait des conseils pour comment comment s'occuper de ce problème. C'est-à-dire ceux qui vivaient dans la terre promise. Alors nous allons aller à Deutéronome au chapitre 20. Et on va lire les versets 16 et 17.
Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phériziens, les Évéens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné.
Alors les Gabaonites étaient des habitants de la terre de Canaan. Alors l'ordre de Dieu était de tuer tout ce qui respirait dans Canaan. Alors Saül, quand il a tué les Gabaonites qui étaient des Canaanites, alors il pouvait consulter la parole de Dieu pour se justifier. Pourquoi Saül était-il dans l'erreur? Didn't he have an alliance with the Gabaonites? Yes, oui. Et c'est ça qu'on va voir, oui. Oui, c'est vrai que la parole disait cela. On pourrait aller plus loin dans la parole pour nous démontrer quelque chose d'autre. Et en tant que jeune chrétien, quelquefois on connaît juste une partie des Écritures. Mais les anciens devraient savoir tout le conseil de Dieu. Et c'est parce que c'est ce que Saül ne savait pas qui le fait tomber. Alors, on pourrait aller dans Josué au chapitre 9. Alors, comme vous le savez, les Gabonais se sont déguisés comme s'ils venaient d'une terre éloignée. Et ils ont raisonné en eux-mêmes de la manière suivante, c'est mieux d'être des serviteurs que d'être morts. Ils voyaient que Josué était en train de détruire tous les gens de la terre promise, tous ceux qui l'habitaient. Alors, on va lire le verset 11 de Josué 9.
Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs et maintenant, faites alliance avec nous. »
Alors, les Gabaonites se sont déguisés. Et ils demandent à Josué de faire une alliance avec eux, c'est-à-dire un pacte de paix, une alliance, une promesse de ne pas les détruire. Et voyons ce qu'Israël a fait au verset 14.
Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel.
Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont fait une alliance avec eux. Fait une alliance, prononcé des vœux. Go ahead.
Verset
15.
Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent.
Ils ont juré au nom de Jéhovah, leur Dieu, qu'ils laisseraient les Gabaonites vivants. Et maintenant, les Gabaonites étaient sous la protection d'une alliance. Et quand ils ont découvert qu'ils étaient déguisés, et qu'ils étaient vraiment de la terre elle-même. On voit au verset 18.
Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs.
Et 19 et 20.
Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait.
Même s'ils méritaient de mourir, à cause qu'ils étaient sous la protection d'une alliance, Israël ne pouvait pas les anéantir. Ils sont devenus les serviteurs d'Israël. Et les Gabaonites ont été sauvés de la mort. Je me demande ce que Dieu pensait de cela. Pensez-vous que Dieu était d'accord avec ça? Est-ce que ça l'a surpris, le Seigneur Dieu? Les Gabaonites ont été sauvés, qu'est-ce que je devrais faire? Il y a d'autres gens qui ont mérité la mort et ont été sauvés par l'alliance de Dieu. Et c'est vous et moi, frères et sœurs. Au chapitre 10 de Josué, Dieu a respecté cette alliance. Les nations sont venues quand ils ont entendu que ils avaient été déjoués. Comme les traîtres s'alignaient avec Israël, ils se sont mis en marche pour détruire. Les nations païennes ont attaqué Gabaon. Gabaon vient à Josué au verset 4 du chapitre 10.
Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël.
C'est là que les nations se réunissent ensemble pour détruire Gabaon. Et verset 6.
Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous.
Et les Gabaonites disent à Josué, où nous sommes tes serviteurs? Et il lui rappelait l'alliance, la promesse qu'il avait faite. Ils dirent alors, sauve-nous.
And the Lord told Joshua to do it.
Et le Seigneur a dit à Josué de le faire. Ça, c'est dans le verset 8.
And the Lord said, I'll destroy the enemies.
Et Dieu a dit, je vais détruire l'ennemi.
And to help destroy those enemies,
et pour aider à détruire ses ennemis,
God did this in verse 13.
Dieu a fait ce qui est écrit au verset 13.
Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour.
God interrupted our space.
Dieu a arrêté l'espace
so there'd be enough daylight
pour qu'il y ait assez de lumière du jour pour détruire les ennemis d'Israël qui se liguaient contre Gabaon. Frères et sœurs, Dieu honore ses alliances, une alliance. Nous devrions être reconnaissants.
Most of us were Gentile sinners.
La plupart de nous étaient des pécheurs.
We came into the covenant that the Jews rejected.
Et nous sommes venus dans, nous avons profité de l'alliance que les Juifs ont rejetée.
Will God honor that covenant and he'll forgive our sins and save us from wrath?
Et est-ce que Dieu va respecter cette alliance?
Will God honor the covenant and giving us everlasting life?
Et nous donnera-t-il la vie éternelle?
Of course you say he will.
Ben, bien sûr, vous allez dire, il va le faire.
Saul was not a man after God's own.
Saül n'était pas un homme selon le cœur de Dieu.
He did not know all the scriptures.
Il ne connaissait pas toutes les Écritures.
And so it seemed right to kill him.
Et ça semblait bien de les tuer.
But David was a man after God's own heart.
Mais David était un homme selon le cœur de Dieu.
And David had covenant faithfulness.
Et David avait de la foi dans cette alliance.
He understood the sanctity of a covenant.
Il comprenait la sainteté d'une alliance.
When God makes a promise, it must be kept.
Quand Dieu fait une promesse, elle doit être respectée.
And so David's leadership decisions,
et les décisions que David a prises en tant qu'autorité
were based on the sanctity of God's covenant.
Étaient basées sur la sainteté de l'alliance de Dieu.
You see, he understood the big picture.
Vous voyez, il voyait ce qui se passait dans tout son contexte.
So what will make no sense to the average person,
ce qui est insensé pour la personne ordinaire, commune,
and would even appear to be against scripture.
Et qui peut même paraître contre les Écritures,
was actually in the center of God's will.
Était vraiment selon la volonté de Dieu.
If you go back to 2 Samuel 21,
alors on retourne dans 2 Samuel au chapitre 21.
Young, zealous man, what hard action now?
Les jeunes qui sont pleins de zèle veulent une action dure immédiatement.
A man after God's heart,
un homme selon le cœur de Dieu,
will take the time to inquire of God,
prendra le temps de consulter Dieu,
to understand the whole counsel of God,
pour comprendre toute la volonté de Dieu,
before he takes action,
avant de passer à l'action.
That might be interpreted as not caring.
Ça peut être interprété comme ne pas s'inquiéter des choses de Dieu.
And then when he takes that action,
et quand il prend cette action, quand il passe à l'action,
it might be interpreted as wrong.
Ça peut être même être interprété comme être une erreur.
What David did next,
ce que David a fait ensuite, C'était de corriger le mal qui avait été fait en brisant l'alliance. Alors on peut lire les versets 4 à 6. Et David consulte les Gabaonites et leur demande : que ferai-je ? Parce que Saül avait brisé l'alliance de Dieu. Et les Gabaonites répondent ceci.
Les Gabaonites lui répondirent : ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit : que voulez-vous donc que je fasse pour vous ? Ils répondirent au roi : puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit : je les livrerai.
Alors les Gabaonites ont dit : on va prendre 7 des fils de Saül et on va les pendre. 7 hommes innocents sont morts ce jour-là. Et on peut lire l'histoire, vous pouvez lire l'histoire vous-même. Leurs femmes ont pleuré. Les familles avaient le cœur brisé. Et pouvez-vous imaginer les critiques que David allait avoir? Mais qu'est-ce qui a incité David à utiliser le pouvoir qu'il avait? Il se prononçait pour la sainteté de Dieu. Il se prononçait par sa foi dans la parole de Dieu. Et cela dirigeait ses actions. Des fois, les actions d'un leader peuvent être difficiles à interpréter. Mais si un leader se prononce pour la fidélité de la parole de Dieu, il va faire des choses qui sont difficiles à comprendre des fois. Mais Dieu était d'accord avec la décision de David. On va lire au verset 14.
On enterrera les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays.
Et Dieu était apaisé. Alors l'homme, selon le cœur de Dieu, va prendre des décisions qui sont en accord avec Dieu. Ça, c'est l'alliance de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. On va aller dans le Nouveau Testament et je vais vous montrer c'est ce que Dieu veut chez les leaders, ceux qui sont des meneurs. Dans Tite, au chapitre 1, s'il vous plaît. Et on voit des qualifications pour les anciens. Au verset 9.
Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs.
Le verset 9 dit qu'on doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée. Jude au chapitre, au verset 3 nous dit qu'on devrait ardemment s'attacher à la foi. Aspirer. Un homme selon le cœur de Dieu et pas seulement intéressé dans les sentiments des gens, qu'à l'alliance et la parole de Dieu. Et alors un ancien doit connaître la foi de la Bible. Il faut qu'il ait l'habilité pour utiliser la doctrine pour contredire les attaques. Et si un ancien est doué dans la Bible, il va comprendre tout dans son contexte à un meilleur degré qu'un jeune chrétien. Et donc, vous devrez faire confiance et respecter vos anciens. Car quelquefois, des décisions n'auront aucun sens pour vous. Mais quand on voit les faits illuminés par la foi de la Bible, il y aura un sens à tout cela. C'est pour ça qu'un ancien doit supporter par les Écritures tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Si vous avez un problème avec l'autorité, allez les voir et demandez-leur d'expliquer leur décision. Et peut-être seront-ils capables de vous montrer des Écritures que vous ne pouviez pas appliquer. Une des raisons que les anciens doivent montrer d'être fidèles à la parole, c'est à cause du verset 10 du chapitre 1 de Tite.
Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs.
Des vains discoureurs et des séducteurs. Et comme David devait pendre les sept fils de Saül, si vous attachez fidèlement à la parole, vous devrez faire des choses négatives des fois. Alors, pour que l'alliance de Dieu ne soit pas transgressée, et que l'Évangile ne soit pas détruite. Peut-être serez-vous appelé à faire ce que le verset 11 nous dit.
Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner.
Il faudra peut-être fermer la bouche. Empêcher quelqu'un d'enseigner. Et on vous traitera de toutes sortes de noms des fois si vous le faites. Et alors des fois, les décisions sont difficiles à comprendre. Les femmes de ceux qui ont été pendus auraient de la misère à comprendre. Mais un homme selon le cœur de Dieu, il est là pour défendre l'alliance de Dieu. Et ce que Saül n'a pas fait, Saül, dans son zèle, a massacré les mauvais gens. Les actions de David étaient gouvernées par son alliance avec les Gabaonites. L'alliance au nom de Jéhovah. Et donc, nous devons comprendre l'utilisation du pouvoir chez ceux qui nous donnent l'exemple. David comprenait sa fidélité à l'alliance, sa loyauté à la promesse. Alors nous allons aller dans 2 Samuel 21 dans les dernières minutes. Peut-être deux versets qu'on va lire.
2 Samuel 21. We
Et on apprend au verset 6 que les sept fils de Saül sont tués pour apaiser les Gabaonites. Et pour justifier Dieu à cause que apaiser Dieu à cause que l'alliance avait été brisée.
But now read verse 7, please.
Alors lisons le verset 7.
Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül.
Il a tué les sept fils de Saül.
There was one son he would not kill.
Mais il y a un fils qu'il ne tuerait pas.
In spite of what the Gibeonites want.
Même si, peu importe ce que les Gabaonites voulaient.
That was Mephibosheth, the son of Jonathan.
Et ça, c'était Mephibosheth, le fils de Jonathan.
Once again, David had a reason.
Mais encore, David avait une raison pour l'utilisation de son pouvoir. Et pourquoi est-ce que David a épargné Mephibosheth?
Alliance.
Because of the covenant.
We're back to covenant kindness or covenant loyalty.
On est encore à la loyauté d'une alliance.
Covenant faithfulness. David had made a promise to Jonathan.
David avait fait une promesse à Jonathan.
And he could not go back on that oath.
Et il ne pouvait pas revenir sur sa promesse.
I'd like you to see that in 1 Samuel 18, please.
Allons dans 1 Samuel 18, s'il vous plaît.
And if you read verses 1 through 3.
On va lire les versets 1 à 3.
David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture.
Alors, Jonathan et David ont fait une alliance.
They made a pledge of promises.
Ils se sont fait des promesses.
We have a God who keeps his promise.
Et nous avons un Dieu qui garde ses promesses.
And David would not break that promise.
Et David ne briserait pas cette promesse.
You'll see a little more on the covenant in 1 Samuel 20.
On va voir plus dans 1 Samuel au chapitre 20. 2 Samuel, 2 Samuel.
1 Samuel 20.
OK, 1 Samuel chapitre 20.
And David promised Jonathan this in verse 15.
David fait une promesse à Jonathan.
Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre.
Jonathan knew David would become king.
Jonathan savait que David allait devenir roi.
And he says, promise that you will not cut kindness off from my house.
Et il dit, promets-moi de ne jamais enlever tes bontés de ma maison. Et c'est ce que David a fait. Et une alliance a été faite au verset 16.
Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David.
Le fait que David a tué les sept fils de Saül, c'était pour honorer la promesse qu'il avait faite aux Gabaonites. Le fait qu'il a épargné Mephibosheth pour honorer l'alliance qu'il a faite à Jonathan. Et donc, les actions de David étaient gouvernées par des alliances. Il travaillait dans dans ce, le cadre des alliances.
You know why he did?
Et savez-vous pourquoi?
Because he was a man after God's own heart.
Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu.
Because brothers and sisters,
parce que, frères et sœurs,
everything your God does,
chaque chose que notre Dieu fait,
he works in the framework of his covenant.
Il le fait dans le cadre de ses alliances.
Your God has made great promises.
Votre Dieu a fait de grandes promesses.
And he never breaks those promises.
Et il ne les brise jamais.
And what he does is meant to keep those promises.
Et ce qu'il fait est dans le but de garder ces promesses-là.
You'll remember he promised David a throne forever.
Vous allez vous rappeler qu'il a fait la promesse à David de lui donner un trône pour toujours, à perpétuité.
And that his son Solomon would build him a house.
Et que son fils Salomon allait lui construire une maison.
But before Solomon was born,
mais avant que Salomon soit né,
David committed the sin of adultery and murder.
David a commis le péché d'adultère et de meurtre.
Now, brothers and sisters, according to the Jewish law,
mais, et frères et sœurs, selon la loi juive,
what deserved to happen to David for adultery?
Qu'est-ce que David méritait pour l'adultère? Deutéronome
22-22,
l'adultère devait être mis à mort.
But God said to David,
mais Dieu a dit à David,
thou shalt not die.
Tu ne mourras point.
Thy sin has been put away.
Ton péché a été effacé.
Why did God seem to even go against the law?
Pourquoi est-ce que Dieu semblait même aller contre sa propre loi? Parce que Dieu avait fait une alliance avec David. Une promesse qu'il aurait une maison, une postérité pour toujours. Et les promesses de Dieu sont plus grandes que la loi. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, il aurait pu venir dans un million de familles différentes. Mais dans quelle famille est-il né? Dans celle de David. Et Dieu a placé dans Marie, a conçu en Marie par le Saint-Esprit.
Because God was honoring the covenant to David.
Parce que Dieu honorait l'alliance qu'il avait faite avec David.
And when they crucified the Lord Jesus Christ,
et quand ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ,
and they buried him and said, that's the end of it.
Et l'ont enterré et ont dit, ah, c'est la fin, c'est fini.
God raised him from the dead.
Eh bien, Dieu l'a ramené à la vie.
And why did God raise him from the dead?
Et pourquoi l'a-t-il ramené de parmi les morts?
The covenant. I'd like you to go to Acts.
À cause de l'alliance, j'aimerais que vous alliez dans Acte 13, s'il vous plaît. Lisons le verset 34 de Acte 13.
Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. »
Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Et je vais vous montrer ma miséricorde, comme je l'ai montré à David.
Everything your God does,
tout ce que votre Dieu fait
is compatible with his covenants.
Respecte ses alliances.
You thank God for that.
Remerciez Dieu pour ça.
That's why you're guaranteed eternal life.
C'est pour ça que vous avez la garantie de la vie éternelle.
That's why you're guaranteed Satan's world system will be judged.
C'est pour ça que vous êtes garanti que le système mondain de Satan va être jugé un jour.
Because God has made promises.
Parce que Dieu a fait des promesses.
And so the man or woman after God,
et alors, l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu,
if they're God,
si elle est selon le cœur de Dieu,
are going to make decisions in the assembly.
Va prendre des décisions dans l'Assemblée selon les alliances de Dieu, selon sa parole. Et cela peut être difficile à comprendre quelquefois parce qu'on ne comprend pas toutes les Écritures encore et ils ont de l'avance sur nous. Mais nous apprenons dans la leçon de David la compréhension. Pourquoi les autorités de Dieu utilisent leur pouvoir de la manière qu'ils le font? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
De temps d'arrêt. Bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre dernière session sur le leadership dans le livre de Samuel, si on tourne au deuxième, à 2 Samuel, chapitre 13, s'il vous plaît. Nous avons considéré différents aspects au sujet du leadership. Comment un vient-il au pouvoir? Comment l'un utilise-t-il cette autorité? Nous avons découvert le grand homme avec son pouvoir. En contraste avec un homme d'après le, selon le cœur de Dieu. En regardant David qui était un homme selon le cœur de Dieu, nous avons une fenêtre au cœur de Dieu. Et nous pouvons voir qu'est-ce que Dieu désire. Maintenant, ce matin, ce que nous voulons considérer est que lorsque nous sommes ou vous êtes en autorité, qu'arrive-t-il lorsqu'il y a une rébellion contre cette autorité? Nous avons étudié comment est-ce que David avait des problèmes avec l'autorité qui était au-dessus de lui. Mais maintenant, c'est David qui est l'autorité. Et il y a des gens qui sont sous son autorité. Et lorsque ceux qui sont sous ton autorité se rebellent, avons-nous un point de vue sur... Y a-t-il quelque chose qu'on peut tirer en regardant ceux qui étaient sous lui? Et y a-t-il la sagesse pour reconnaître? Regardons ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu ce matin. Dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 21, on va lire.
Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité.
Le contexte du verset 21 est le fils de David, Absalom. Amnon. Qui a violé sa demi-sœur Tamar. Et Tamar était la fille des deux côtés, la sœur des deux côtés d'Absalom. Et comme de raison, David est en colère. Et qu'est-ce qu'on va traduire dans cette dernière partie dans Samuel est la bataille de la justice et de l'amour. La justice veut dire de faire ce qui est juste. Et l'amour opère sur, basé sur l'amour opère sur les cordes du cœur. lorsqu'on aime quelqu'un, est-ce que c'est toujours pour faire quelque chose qui est bien lorsqu'ils ont tort? Et c'est le problème qu'il y a avec l'autorité. L'équilibre entre la justice et l'amour. Alors nous voyons qu'est-ce qui arrive ensuite. Verset 22.
Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur.
David a choisi de ne rien faire avec Amnon, même si Amnon était coupable de viol. L'amour a prédécédé ou a surpassé dans ce cas ici la justice. Alors, malgré que Absalom a rien fait au début, il haïssait Amnon pour qu'est-ce qu'il avait fait à sa sœur. Et au cours d'un certain temps, Absalom arrange pour le meurtre de Amnon. Il n'était pas la loi, mais il a pris la loi entre ses propres mains et a fait tuer son propre frère. Tournons maintenant au verset 26. Plutôt au verset 37.
27. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils.
Donc, pour 3 ans, Absalom fuit la présence de David. Mais le roi David aime Absalom. Lisons verset 39.
Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon.
Alors, excusez, j'allais traduire. Donc, Absalom était coupable de meurtre. Mais David l'aimait et voulait le voir. Maintenant, au verset 1 du chapitre 14.
Joab, fils de Tsruya, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom.
Donc, Joab. Joab conçoit un plan pour faire revenir Absalom.
And he gets a wise woman from Tekoa.
Et il cherche une femme sage de Tekoa.
And she is to go into David with a parable, with a fake story.
Et elle est demandée d'aller vers David avec une fausse parabole ou une fausse histoire.
And it's about two sons.
Et c'est au sujet de deux fils.
And one son slew the other son.
Et un fils tua l'autre fils.
But the son that was left was guilty of death.
Mais le fils qui restait était coupable de mort. Mais il était le seul fils qui restait de la famille. Et s'il mourait, il ne resterait plus personne pour porter le nom, pour continuer le nom de la famille. Ça nous amène au verset 7 du chapitre 14.
Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, livre le meurtrier de son frère, nous voulons le faire mourir. pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindrait ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre.
So the parable teaches,
donc la parabole enseigne que malgré que le fils méritait une punition, le châtiment,
it would bring to an end the family name.
Ça apporterait une fin au nom de la famille.
So there's a hiss of the serpent in this verse.
Donc nous entendons le sifflement du serpent dans ce verset.
What is being conveyed?
Qu'est-ce qui nous est amené comme pensée?
Is that sin must be punished.
Et que le péché doit être puni.
But maybe there's a good reason not to.
Mais peut-être qu'il y a une bonne raison pour ne pas qu'il le soit.
And if the reason is good enough,
et si la raison en est assez bonne,
is it right to overlook sin?
Est-ce que c'est bien de passer par-dessus le péché?
The wise woman is saying yes.
La femme sage est en train de dire oui.
The crafty woman is saying yes.
La femme qui est rusée, ouais. Peut-être rusée, est en train de dire oui.
David finally discovers that it was a hoax.
Finalement, David découvre que c'était une supercherie.
And that Joab had put her up to that.
Et que c'était Joab qui l'avait incité à dire cette histoire.
Where it really was a defense for Absalom.
Car réellement, c'était une défense ou un moyen de défense de défendre Absalom.
So now the woman directly appeals to David.
Alors maintenant,
appeals directly to David.
Who appeals?
The woman.
Okay. Alors, la femme fait appel directement à David.
And that brings us to verse 14 of chapter 8. Excuse me, verse 14 of chapter 14.
Alors, ça nous amène au verset 14 du chapitre 14.
Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence.
So the logic of the woman is this.
Donc la logique de la femme est celle-ci.
We all have to die.
Nous avons tous à mourir.
And we're like water stood on the ground.
Et nous sommes... Excusez, je vais le lire. Nous sommes comme l'eau répandue par terre.
In other words, there's no use crying over spilt milk.
En autre mot, c'est une expression en anglais, il n'y a pas de mal à pleurer, il n'y a pas de raison pour laquelle on doit pleurer sur du lait répandu, mais c'est une expression en anglais. Ça.
And then the woman will say truth with a lie.
Alors, la femme va dire une vérité avec un mensonge.
First, she gives a lie in her logic.
Premièrement, elle donne un mensonge dans sa logique. Elle dit que Dieu ne respecte pas non plus aucune personne. Alors qu'il est vrai que Dieu n'est pas un respecteur, entre guillemets, de personne, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que Dieu ne fait pas de différence entre le péché de cette personne.
For his very law said,
car sa propre loi dit
that there were certain sins, such as murder,
qu'il y avait certains péchés tels que le meurtre
that deserve the death penalty,
qui méritent le châtiment de la mort.
While everybody commits sin in a general way,
alors que tous vont pécher dans un sens général,
such as lying and so forth,
tels que le mensonge, etc.
There is a difference in judgment against sin.
Il y a une différence dans le jugement du péché.
The murder of man was forbidden.
Le meurtre humain était défendu.
For according to Genesis 9,
car selon Genèse au chapitre 9,
man was made in the image of God.
L'homme est fait à l'image de Dieu.
So God does respect people in the degree of sin.
Donc Dieu fait un respect ou fait une différence dans le degré de péché.
That is when it comes to the subject of justice.
C'est-à-dire lorsque on entre dans le sujet de justice.
So there is error in her logic.
Donc, il y a une erreur dans la logique de la femme.
But then she says something true.
Mais ensuite, elle dit quelque chose de vrai.
At the end of verse 14,
à la fin du verset 14,
that his banished be not expelled from him.
Que celui qui est banni ne reste pas loin de lui.
And it is true.
Et il est vrai
that God provides a way back for his banished.
Que Dieu pourvoit un chemin de retour ou un moyen de retour pour celui qui est banni.
Adam is one example.
Adam en est un exemple.
David was another example.
David est un autre exemple.
And while that statement is true,
alors que cet énoncé est vrai,
there are certain sins,
il y a certains péchés
that God provides no way back.
Que Dieu ne donne pas de chemin de retour.
But she mixed the lie with truth.
Mais elle a mélangé le mensonge avec la vérité.
David's love went out over his justice.
Et l'amour de David a gagné ou a pris le dessus sur la justice.
If you read verse 21 of chapter 14.
Lisons au verset 21 du même chapitre.
Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme à Absalom. »
So the king gives the order to bring Absalom back again.
Alors le roi donne l'ordre de ramener Absalom encore.
And now verse 23 and 24.
Maintenant le verset 23 et le verset 24.
Et Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi.
So, brothers and sisters, do we have true reconciliation?
Alors, frères et sœurs, selon vous, avons-nous ici un exemple de vraie réconciliation?
Why not?
Pourquoi pas? He is not repentant and he refused to see.
No communication?
Pas de communication. No communication. No.
The two other answers to that: no repentance.
Okay. Pas de repentance.
Absalom, had never repented of this.
Absalom ne s'est jamais repenti de ceci.
And David had never forgiven him because he hadn't repented.
Et en plus, David ne l'a jamais pardonné parce qu'il l'avait fait.
David's full heart was not in this.
Le cœur entier de David n'était pas dans ceci.
Absalom, was not broken.
Absalom n'était pas brisé.
Though Absalom was back,
et malgré qu'Absalom était de retour,
because there had been no repentance,
parce qu'il n'y avait pas eu de repentance,
David, did not fully receive him.
David ne l'a pas reçu complètement.
And so he saw not the king's face.
Alors il n'a pas vu la face du roi.
For a minute, I'd like you to go to Luke chapter 17, please.
Okay. Regardons dans Luc chapitre 17. Et lisons les versets 3 et 4, s'il vous plaît.
Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras.
Frères et sœurs, je veux vous donner quelque chose sur lequel on peut réfléchir.
Is it right to forgive a person?
Est-il juste de pardonner une personne? alors qu'ils ne se repentent pas de leur tort ou de leur péché. Nous sommes enseignés aujourd'hui de pardonner qui que ce soit qui nous fait du tort. Mais si je lis la Bible comme il se doit ou comme il faut, non seulement ici, mais dans tous les endroits de la Bible, il est dit, s'il se repent, pardonne-lui. Et continue à le pardonner s'il continue à se repentir. Il ne peut pas y avoir de vraie réconciliation à moins que la personne qui a péché se repent. Même s'il est vrai que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Sur quelle base les a-t-il pardonnés selon Actes au chapitre 2?
Repentez-vous. Repent.
Repent. Repentez-vous et soyez baptisés. Lorsque le Seigneur Jésus écrit aux sept assemblées dans Apocalypse,
he calls on them to repent.
Il les demande de se repentir.
What happens if you forgive a person without them acknowledging their sin and repenting?
Qu'est-ce qui arrive si on pardonne quelqu'un qui n'a pas admis son péché? Qu'est-ce qui arrive? Ils vont probablement, ou ils peuvent le faire encore une fois. Et toutes sortes de problèmes vont venir. Vous n'aurez pas leur cœur. Et je voudrais qu'on retourne à 2 Samuel chapitre 14. Il est vrai que nous devrions avoir la volonté de pardonner à tout moment. Et nous ne voulons pas devenir aigris envers une personne. Mais pour vous, d'aller vers une personne qui n'est pas repentante et qui a péché contre vous et dire « Je te pardonne » est dangereux. Et Dieu n'a jamais fait ça. Et quand ça a été fait, ici comme dans le cas de David, ça a amené de mauvais résultats. On ne veut pas encourager son péché. On veut que la personne ait le cœur brisé. Mais quand il se repent, alors, on est dans l'obligation de pardonner et de continuer à pardonner s'il continue à se repentir. Alors, Absalom ne s'est pas repenti, mais David l'a ramené à un certain degré. Maintenant, regardons le verset 28 du chapitre 14.
Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi.
Alors il resta 2 ans à Jérusalem. Absalom déclara qu'il voulait voir le roi. Encore par Joab,
le roi était talked into bringing Absalom into his presence.
Le roi a été convaincu d'amener Absalom dans sa présence. Ça nous amène au verset 33.
Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom.
And Absalom kisses the king.
Et Absalom baisa le roi.
And you say all is well.
Et on dit que tout est bien.
It wouldn't be too long.
Il ne serait pas très long
until the one who kissed the king
avant que celui qui a baisé le roi
is arranging his murder.
Et va arranger son meurtre. Ouais, en fait, le verset dit « Le roi baisa Absalom ». Donc, il dit que c'est vrai. Il y avait un baiser du roi. C'est le roi qui a baisé Absalom. Le point demeure le même. Le roi, celui que le roi va baiser va bientôt comploter le meurtre du roi. Car qu'est-ce qui est arrivé dans les années que Absalom a été ramené? Ramené sans la justice et ramené sans repentance. Qu'est-ce qui est arrivé au cœur d'Absalom? Il s'est endurci envers David. Est devenu amer. Pour que, en fin de compte, il détestait son père et voulait le royaume pour lui-même. L'amour sans repentance est dangereux. Alors, puisse le Seigneur vous aider dans le leadership pour trouver cet équilibre entre l'amour et la justice. Ne jamais donner l'amour aux dépens de la justice. Mais dans votre justice, ayez de l'amour. Alors qu'on pouvait avoir l'apparence ici que tout était bien, ce n'était pas le cas. Alors au chapitre 15, on vient au sujet de la rébellion de Absalom à l'autorité. Et je voudrais qu'on regarde comment il l'a fait. Versets 1 et 2, s'il vous plaît.
Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers leur roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ?» Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. »
Avant qu'on regarde comment il l'a fait, avez-vous des commentaires ou des questions sur ce qui a été dit?
Matthew 18:15 said, if your brother did something against you, go and see him. And I think that God made the provision that if somebody sinned against you, you have to go and arrange something. If he doesn't forget, it's not your trouble. That's trouble, God's trouble. And I mean that you have to do anything to be in good shape or to be in order with God, yourself, and your brothers. And I think that's the other part, that God make another provision that if somebody don't want to forgive or don't want repent, you must do something. If he doesn't, that's not your trouble anymore. That's a stone against him. Because you have a stone before, you had bitter in you. And you must be delivered of that. And I think that's we should have both in the same time, that if he doesn't want to repent, well, I will say in the French.
Yes.
Notre frère nous a dit que si quelqu'un a péché contre toi, s'il ne veut pas se repentir, dans le sens que tu ne peux pas lui pardonner. Mais dans Matthieu 18:15, il dit que si tu sais que ton frère a quoi contre toi, va et reprends-le. Ça veut dire que Dieu a mis une provision d'aller arranger tes affaires. Et s'il ne veut pas, c'est plus à toi, mais c'est à lui. Il y a une pierre d'achèvement sur lui. Ça veut dire que Dieu a fait une provision pour que n'importe quoi qui arrive, il faut que tu aies arrangé tes choses. Et s'il ne veut pas se repentir, ce n'est plus à toi. Ça veut dire que toi, tu as été délivré de... Parce que tu sais qu'il y avait quelque chose, donc tu commençais à fomenter amertume ou peut-être d'autres choses contre lui. Tu ne veux plus y parler. Mais Dieu veut absolument qu'on s'arrange, qu'on soit en paix les uns avec les autres. Be in peace each other.
He's absolutely right.
Il a parfaitement raison.
Even though we have been sinned against.
Même si nous avons été, si quelqu'un a péché contre nous, nous devrions nous humilier et chercher la réconciliation. Mais si vous remarquez dans le verset 15 du chapitre 18 de Matthieu,
vous pouvez seulement gagner votre frère.
Vous pouvez gagner votre frère seulement si il va vous entendre ou vous écouter.
So once again, the principle,
alors, encore une fois, le principe
that for reconciliation,
pour qu'il y ait réconciliation,
he has to listen.
Il faut que l'autre personne écoute.
He has to agree that he's wrong and so on.
Il faut qu'il soit d'accord qu'il a tort et ensuite, ainsi de suite.
So the principle remains the same.
Donc, le principe reste le même.
But the balance is,
mais l'équilibre est
that out of love we can seek that person out.
Par amour, nous pouvons approcher cette personne.
But if that person doesn't hear you,
mais si cette personne ne veut pas vous entendre,
according to Matthew 18,
selon Matthieu 18,
is there to be reconciliation?
Est-ce qu'il doit y avoir réconciliation?
You're to go through another step.
On doit plutôt aller par un autre, aller à un autre pas.
And if he still doesn't repent,
et s'il ne se repent pas encore,
there's no reconciliation.
Il n'y a pas de réconciliation.
You're to go to a third step.
On doit aller à un troisième pas
and tell it to the church.
Et le dire à l'Église.
Hopefully it's solved by then.
On espère qu'à ce moment-là, c'est réglé.
But if he doesn't listen to the church,
mais s'il n'écoute pas l'Église,
is there to be reconciliation?
Est-ce qu'on voit qu'il doit y avoir réconciliation? C'est plutôt marqué qu'on doit le traiter comme un ennemi. Dieu ne connaît rien de la réconciliation sans repentance. Et si on passe à côté de la repentance, nous pouvons peut-être créer un Absalom. Mais le point qui dit que nous devons nous humilier et d'aller vers la personne était bonne. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un commentaire ou une question? Yes.
Mais c'est dit, le texte de Matthieu dit, mais qu'il soit pour toi comme un païen, quelque chose de même. Enfin, et puis Darby dit que c'est pas l'Église qui est impliquée là-dedans, mais c'est seulement la personne. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. The text of Matthew said that he be for you if he does not repent, like a publican or something like this, to the man, not to the church. So Darby is saying with that that it's only a matter between the person. The two individuals, not the
church.
The church. What do you think about that?
It is true. The word is singular. Let him be unto you as an individual.
So, would it be true that then the church is not implicated, involved?
Well, the church is involved in the decision of right or wrong.
l'Église est impliquée dans la décision de vrai ou faux, de bien ou de mal. Mais la question est, est-ce que c'est toute l'Église maintenant qui doit le traiter comme un ennemi? Quelques circonstances pourraient avoir une implication avec ça. Nous pourrions nous... dépendant de qu'est-ce que c'est le problème. Si c'est un péché d'ordre sexuel, alors 1 Corinthiens 5 enseigne que toute l'Église doit le mettre de côté. Mais que si c'est une faute personnelle, une faute personnelle envers la personne, c'est indiqué que seulement l'individu, les individus ne peuvent pas être réconciliés. Parce qu'ici, dans le texte, c'est un mot qui implique la personne au singulier. Qu'il soit pour toi, le mot c'est personnel envers la personne. Voilà.
In light of what you're saying, would that brother, well, I guess would be a little awkward in the gathering of the Lord's Supper on a Sunday morning.
En français? En français, alors ça serait...
Ce serait pas mal dur un dimanche matin à l'entour du repas du Seigneur pour avoir un cœur pour le Seigneur.
Oui, ouais, ça c'est pour dire le moindre.
Now for Samuel, 2 Samuel 15.
Maintenant, 2 Samuel 15.
We have already read the first two verses.
Nous avons déjà lu les deux premiers versets.
How did Absalom get a following to rebel against David?
Comment Absalom a-t-il eu une suite en arrière de lui pour aller contre David?
In verse 1, he appeared successful.
Au verset 1, il apparaît comme ayant du succès.
And everybody likes success.
Et tout le monde aime le succès.
When you look successful,
lorsqu'on a l'air d'avoir du succès,
you look like a winner.
On a l'air d'un gagnant.
Someone God is blessing.
Comme quelqu'un que Dieu est en train de bénir.
So Absalom knew the political strategy.
Alors Absalom connaissait la stratégie politique
of symbolism or imagery.
De symbolisme ou d'avoir l'air d'avoir le succès.
That is to make things look like all is well.
C'est-à-dire de faire en sorte que les choses apparaissent comme si tout était bien.
We have a president in the United States.
Nous avons un président aux États-Unis
who is openly for sin.
Qui est ouvertement pour le péché.
But on Sunday morning, he will walk into a church.
Mais le dimanche matin, il va aller à l'église
holding his Bible like this.
Tenant sa Bible comme ceci.
And it makes the front page of all the papers.
Et puis, ça fait la une de tous les journaux.
The symbolism is he's a man for God.
Le symbole est qu'il est un homme de Dieu et pour Dieu.
Absalom knew all about that.
Et Absalom connaissait cette stratégie.
And then notice what he did in verse 2.
Et regardons qu'est-ce qu'il a fait dans le verset 2.
He would get up early and go by the king's gate.
Il se levait tôt de bon matin et se tenait au bord du chemin à la porte, c'est-à-dire la porte de la ville
where the people would be coming in.
Où les gens viendraient, passeraient par cette porte.
And when anybody had a problem, an argument,
et lorsque quelqu'un avait un problème ou un différend,
they would be on their way to King David for a judgment.
Ils seraient en chemin pour avoir un jugement de la part de David.
And Absalom would stop them.
Et Absalom les arrêterait.
And ask them where they're from.
Et il leur demanderait d'où ils étaient.
How they're doing.
Comment ils allaient.
And so on.
Et ainsi de suite.
A successful man.
Un homme avec du succès.
None less than the king's son.
Et pas moins non plus qu'il était le fils du roi. Et le fils du roi leur parlait.
So what is his strategy here?
Alors, quelle est sa stratégie ici?
To show them interest. He's taking a personal interest in the people.
Alors, il leur démontre un intérêt personnel envers le peuple.
Perhaps some of these people would never get to see David personally.
Peut-être que certaines de ces personnes n'auraient jamais eu l'occasion de voir David personnellement
because of the amount of problems.
Parce à cause du nombre très grand de problèmes.
But here's somebody who cares.
Mais voici quelqu'un qui les écoute, qui prend soin d'eux.
Here's somebody who has time to spend time with them.
Voici quelqu'un qui a du temps pour passer du temps avec eux.
How deceitful the heart of man is.
Comment le cœur de l'homme est trompeur.
Not always when people do nice things.
Pas seulement quand des gens font de belles choses ou de bonnes choses.
Do they have the right motive for doing them?
C'est pas toujours quand ils font de bonnes choses qu'ils ont le bon motif pour les faire.
And while Absalom never personally criticized King David,
alors que Absalom n'a jamais critiqué personnellement David,
while he never asked the people to rebel in the beginning,
malgré qu'il n'a jamais demandé au début aux gens de se rebeller contre David, il sournoisement était en train de poser les fondations qui tourneraient leur cœur contre David. Regardons le verset 3.
Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, et personne de chez le roi ne t'écoutera. »
Rappelez-vous que tous les gens qui viennent avec une controverse, Absalom les arrêterait et leur dirait ceci. Voyez-vous quelque chose qui n'est pas correct dans cette affirmation du verset 3? Il a dit, ta cause est bonne et juste. Et à qui le disait-il?
Anybody.
He said it to everybody.
Il le disait à tout le monde.
And when there's an argument between people,
et lorsqu'il y a un différend ou un argument entre personnes,
how can everybody be in the right?
Comment se peut-il que tout le monde ait raison?
That's how people win the hearts of followers.
C'est comme ça qu'on gagne le cœur de ceux qui suivent. Alors, voyez le point ici, c'est que tout le monde allait parce qu'il y avait un différend entre eux, mais tout le monde avait raison.
Ok, just because in the translation I was afraid to have lost the meaning.
They agree with you.
Ils sont d'accord avec vous.
You say, boy, this person cares.
Et ils disent, bon, hey, cette personne a vraiment sympathique envers moi, là.
Boy, is this person wise.
Et cette personne est vraiment sage.
Because he knows I'm right.
Parce qu'il sait que j'ai raison.
That's how you get somebody's heart.
C'est comme ça qu'on obtient le cœur de quelqu'un.
Whether they're right or wrong, you tell them they're right.
Même s'ils ont tort, même si qu'ils soient dans la vérité ou dans le tort, on leur dit qu'ils sont dans la vérité.
And slowly, the people's hearts.
Et tranquillement, le cœur des gens. On voit que le cœur des gens sont tranquillement en train d'être tourné contre l'autorité et commence à suivre le mauvais homme. Et il l'a fait sans un mot de critique. Il a aussi dit au verset 3, c'est pas de valeur qu'il n'y ait personne qui est assigné par le roi pour vous écouter. Moi, je ne sais pas si c'était vrai ou pas. La Bible dit simplement qu'ils étaient en chemin pour aller vers le roi. Mais je crois que l'implication est, n'est-il pas de valeur qu'il n'y ait personne qui veuille vous entendre et qui veuille vous défendre? Et des personnes qui ne savaient même pas qu'ils avaient un problème avec le roi, tout d'un coup voient qu'il y a un problème qui n'existait même pas. Frères et sœurs, comme je partageais l'autre matin, j'ai vécu sous l'autorité, où ce que j'ai eu quelques lances qui ont été lancées vers moi.